Voilà. Donc, secours du Notre Père, ne vous inquiétez pas, il va être très, je pense, assez facile à suivre parce que vous allez avoir toujours le plan qui se déroule sur l'écran. En principe, il y a un enregistrement qui est fait de ce cours et qui sera redonné pour le moment sur le site internet de Bernanos. Alors c'est très simple, pour trouver le site internet de Bernanos, vous regardez dans Google espace Bernanos. Et si c'est possible, mais on n'a pas encore le matériel suffisant pour ça, nous ferons des CD audio avec les 8 cours à la fin de ces 8 cours. Il faudra simplement demander. Donc c'est ce premier cours qui nous réunit. Vous allez goûter un petit peu à ce cours. Vous allez entrer forcément peut-être dans quelques petites difficultés. Vous pourrez poser les questions que vous voudrez, mais les questions, vous les notez sur un petit bout de papier et vous me les donnez à la fin de l'heure parce qu'il y a beaucoup de matière dans ce cours. C'est un cours qui est un cours de spiritualité, qui est un cours et puis que je souhaite être aussi une méditation, une réflexion, afin de nous apprendre à redécouvrir la profondeur de cette prière du Notre Père, apprendre, réapprendre peut-être à prier avec cette prière. La prière est la formulation d'un désir que je présente à Dieu, c'est la définition de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Mais vous voyez, quand on dit cela, la formulation d'un désir que je présente à Dieu, est-ce qu'on peut adresser à Dieu n'importe quel désir? Si le Seigneur nous a appris à prier par le Notre Père, c'est que sans doute nos désirs ont besoin d'être formulés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est pas dominicaine mais carmélite, à une approche beaucoup plus intérieure de la prière. Elle dit par exemple, la prière c'est un élan d'amour vers Dieu, un élan du cœur vers Dieu, et elle fait l'expérience de la puissance de la prière. Quelle est donc grande la puissance de la prière, dit-elle dans le manuscrit C de son autobiographie, on dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi. La prière du Notre Père, telle qu'elle nous est donnée dans l'Évangile, elle nous apprend à prier avec les mots qui nous sont donnés par le Christ Sauveur. C'est en quelque sorte donc la prière des prières, puisqu'elle vient directement de la bouche du Sauveur. Le Notre Père, disait Charles Péguy, c'est comme la proue du navire qui s'avance vers Dieu. Et il faut prendre tout de suite conscience de cela. Nous prions avec les mots du Seigneur et surtout nous prions dans l'ordre que lui-même a mis dans les demandes que nous devons formuler. Et le Seigneur a voulu que sa prière devienne notre prière. Alors, sans doute, la première chose à faire, c'est de voir les deux passages évangéliques dans lesquels nous est donnée cette prière du Notre Père. Donc, le premier évangile, c'est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 15. Je prends l'intégralité, je ne prends pas tout de suite le texte même de la prière, mais, alors peut-être que s'il manque de chaises, on va peut-être demander au régisseur, s'il nous entend, de descendre pour amener des chaises. Voilà, parce que je crois qu'il enregistre le cours. En fait, au chapitre 6, alors le chapitre 6 fait partie du Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne occupe trois chapitres en Saint Matthieu, le chapitre 5 avec les béatitudes, le chapitre 6 et le chapitre 7. Et donc, nous sommes là au cœur du sermon sur la montagne. Et avant la prière du Notre Père, il y a des conseils sur la prière sur lesquels il faut s'arrêter. Premier conseil. Lorsque vous priez, dit le Seigneur, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des places afin de se faire voir des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur récompense. Mais pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans ce qui est secret. Et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Premier conseil du Seigneur à ses disciples, c'est d'éviter le piège des hypocrites. Alors, ce piège des hypocrites, il ne s'agit pas de prier simplement en public. C'est pas ça le piège, parce que sinon, bah alors on n'irait plus à la messe, on n'irait plus aux offices, les moines ne se lèveraient plus la nuit pour être ensemble et lire l'office des lectures, ni les vêpres, ni les laudes, ni aucune prière communautaire. Il faut faire bien attention, l'hypocrisie ne consiste pas à prier avec d'autres, mais elle consiste à aimer se faire voir des autres. Être avec d'autres pour se faire voir, en train de prier. Et qu'est-ce qui est condamné précisément? C'est de chercher la société pour être vu. Si je prie quand il y a du monde, et que je ne le fais pas si je suis seul, alors oui, ma prière est viciée. Si je prie quand je suis seul, alors je sais prier avec les autres. Parce que je ne prie pas avec les autres pour être vu des autres. Je ne cherche pas mon petit prie-Dieu, ma petite place. Voilà. Et c'est le cas, vous savez, c'est le cas du pharisien qui monte au temple, dit dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 18. Vous savez, le pharisien et le publicain. Le pharisien qui monte au temple afin d'être vu. S'il était allé au premier rang pour être plus près de Dieu, il aurait été loué par le Seigneur. Il y a un deuxième piège, avant que le Seigneur nous enseigne sa prière, c'est le piège non plus des hypocrites, mais le piège propre aux païens. Quand vous priez, dit le Seigneur, ne rabâchez pas, comme les païens, qui pensent que c'est à force de parole qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le piège des païens consiste en quoi? Quand le Seigneur dit « ne rabâchez pas », ben, il ne dit pas non plus arrêtez de dire des chapelets et des dizaines de « Je vous salue Marie », c'est pas ça. En fait, derrière la notion de rabâchage, il y a au fond un manque de confiance. C'est le manque de confiance. Ce qui est condamné ici, au fond, c'est une notion magique de la prière, dans laquelle il n'y a pas d'âme. Voyez, on prie comme s'il fallait dire un certain nombre de mots, parfois sans aucune signification. Et ça vaudrait encore mieux parce que c'est encore plus magique, si vous voulez. Alors on répète, on répète, on répète, on répète. Et alors, voyez, vous entrez dans une attitude superstitieuse, une attitude magique. Si vous sautez des mots, si vous renversez l'ordre, alors à ce moment-là, vous ne serez plus exaucé. J'ai l'habitude de dire trois « Je vous salue Marie », j'en ai dit que deux, je ne serai pas écouté du Seigneur. Et ça, il faut faire attention, parce que ça nous guette, ça. Vous voyez, cette attitude magique. Parce que la magie, ce n'est pas seulement chez les primitifs. Hein. Elle est chez nous, dans une tendance, tapie au fond de nos cœurs. On veut s'acquitter de tel ou tel rite. peu importe comment on le fait, tels les scrupuleux qui veulent faire une prière devant telle image et pas telle autre. Vous voyez ? Bien encore, voilà, j'ai prié deux fois la Vierge Marie, en principe c'est trois. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai pas bien fait ma prière. Voilà, tout est manqué. Et vous savez, vous aurez bien prié si vous priez une fois avec confiance et avec le cœur. Voilà ce que veut nous dire le Seigneur. Ne rabâchez pas, mais priez avec confiance. Pensez aux mots que vous prononcez. C'est pour ça qu'il nous faut redécouvrir le Notre Père. Et dès qu'on dit Notre Père, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit ? On entre ici dans une adoration. Comment priez-vous, voyez ? Lorsque c'est la magie qui ressort et qui prend l'avant-scène de la vie de prière, ça devient sclérosé, ça devient morbide. Si vous cherchez la répétition comme une sorte de mélopée, de piège destiné à capter la bienveillance divine, par une certaine répétition, comme on endort un petit enfant, on va capter les énergies divines, comme on fait venir les serpents en jouant deux ou trois morceaux de flûte. Eh bien, vous tombez sous le coup de ce conseil du Seigneur, quoi, de ce piège. Vous tombez dans ce piège. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de parole qu'ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc priez avec conscience. On reviendra là-dessus, hein, parce que ça pose une difficulté. Si le Père sait ce dont j'ai besoin, pourquoi le prier ? Alors, avant de passer à cette structure du Notre Père, selon Benoît XVI, il nous faut entrer dans le texte de ce que dit le Seigneur au chapitre 6 de saint Matthieu. « Vous donc, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » La version, le texte du Notre Père en saint Matthieu est le texte le plus long. Il contient ces sept demandes qui ont été reprises par la liturgie. C'est exactement le même. Et j'ai pris ici la traduction de la Bible de Jérusalem de 1956. Donc on reviendra, et c'est ça l'intérêt, le but de ce cours, de cette méditation, c'est d'entrer dans chacune des sept demandes. Mais justement, je vous parle de sept demandes. Quelle est la structure du Notre Père ? Comment distinguer entre toutes ces demandes ? Regardez bien. La première phrase est une mise en présence. Nous nous mettons en présence de Dieu. Ça n'est pas une demande. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent avoir des conseils sur la prière, demandent au fond une première chose, c'est « quand je prie ?» En présence de qui dois-je me mettre ? Qui est-ce que je prie ? Vous ne priez pas de la même façon et vous ne demandez pas la même chose quand vous êtes en présence du Père, quand vous êtes en présence du Fils, en présence du Saint-Esprit, et vous ne priez pas non plus de la même façon quand vous priez la Vierge Marie, qui n'est pas une déesse, qui est une femme, qui est devenue la Mère de Dieu, sainte, et qui... On lui demande l'aide de sa propre prière. Mais on ne demande pas la même chose au Père, au Fils ou à l'Esprit-Saint. Donc la première phrase, ça n'est pas une demande. Et après viennent les demandes. Et il y a un ordre dans ces demandes. Le pape Benoît XVI, dans son premier tome sur Jésus de Nazareth, offre une structure assez intéressante que je vais vous lire ici. Je pense que je l'ai mis après. Non, c'est l'Évangile selon saint Luc. Alors je vais lire ici ce que dit Benoît XVI. La prière du Notre Père se compose d'abord d'une invocation initiale, Notre Père qui es aux cieux, et puis sept demandes. Trois d'entre elles sont formulées à la deuxième personne du singulier. Donc, on demande à Dieu des choses, ces demandes concernent Dieu lui-même, ton nom, ton règne, ta volonté. Trois d'entre elles donc sont formulées à la deuxième personne du singulier et quatre à la première personne du pluriel. Notre pain, nos dettes, ne pas nous soumettre à la tentation, on reviendra sur cette question, et puis délivre-nous du mal. Vous voyez, trois demandes qui sont à la deuxième personne du singulier, trois demandes qui sont à la première personne du pluriel. Alors il est à noter aussi, Benoît XVI ne le dit pas, mais en fait, on le voit, au milieu du Notre Père, vous voyez, il y a les trois demandes à la deuxième personne, ton nom, ton règne, ta volonté, et puis une charnière qui est la quatrième demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, qui est au milieu de la demande, la quatrième entre les trois premières et les trois dernières. Et vous voyez aussi qu'il y a comme une tension entre la première et la dernière demande. La sainteté du nom de Dieu et le mal dont nous voulons être délivrés. Et comme une sorte de tension entre ce qu'il y a de plus haut, la sainteté de Dieu, et ce qu'il y a de plus bas, le mal dont nous voulons être délivrés. Et au milieu, il y a le pain quotidien. C'est ce qui fait dire au cardinal Barbarin, mais il a pas inventé, parce qu'un père de l'Église l'avait déjà fait, son commentaire du Notre Père. Alors, entre parenthèses, il y a trois livres que vous pouvez vous procurer. Il y a trois livres que vous pourrez vous procurer à la librairie, hein, quand elle sera ouverte. Elle est ouverte avant le cours. Il y a un commentaire du Notre Père par le cardinal Journet, Notre Père qui est aux cieux. Un très bon petit livre dont je m'inspire beaucoup dans ce cours. Il y a le commentaire du Notre Père par le cardinal Barbarin, dont je m'inspire aussi. Et puis, il y a l'excellent commentaire de saint Thomas d'Aquin qui s'appelle le Notre Père. C'est le Notre Père et le Je vous salue Marie. Vous pouvez toujours prendre l'un ou l'autre de ces livres à la librairie et vous verrez que vous y trouverez déjà bien votre compte. Et chacun des livres étudie une demande. Je m'aperçois qu'une heure ne va pas me suffire si je n'avance pas. Alors maintenant, l'Évangile selon saint Luc est beaucoup plus court. Mais, voilà. Voilà comment commence l'Évangile de Saint-Luc. Nous sommes au chapitre 11. Alors c'est très intéressant parce que à partir du chapitre 9, le chapitre 9 en Saint-Luc représente un moment charnière. C'est le moment où Jésus prend résolument le chemin vers Jérusalem, vers sa passion, vers sa mort et vers sa résurrection. Et donc, et vous savez qu'il commence par Jéricho et il va faire toute cette montée par Jéricho. Si vous avez été une fois ou l'autre en Terre Sainte, on fait quelquefois la montée de Jéricho à Jérusalem, ça monte tout le temps. Et puis il arrive à Béthanie et là il arrive chez son ami Lazare où Marthe et Marie l'accueillent. Un moment très important d'amitié avant les jours troubles de Jérusalem. Et vous savez que Marie a choisi la meilleure place, elle s'assoit au pied de son Seigneur, au pied de son Maître, et elle l'écoute. Elle écoute cette parole qui sort de ce verbe qui sort de la bouche du Verbe incarné de Dieu, fait homme. Et c'est après, ayant dit cette parole, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas ôtée, qu'il y a cet enseignement sur le Notre Père. Or, un jour, quelque part, Jésus priait. C'est très beau, ça, de se représenter Jésus priant. Toute l'humanité de Jésus est à ce moment-là assumée, voyez, par sa divinité, par sa personne divine. Ça n'est pas Jésus, Dieu, qui prie, c'est Jésus, homme. Toute son humanité est comme ressaisie par sa personne divine et tournée vers le Père. Jésus prie. Dans l'évangile de Saint-Luc, c'est l'évangile de la prière de Jésus. De nombreuses fois dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus prie. Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda. Quand il eut fini, il faut comprendre que ce disciple a pris le temps, a été saisi par ce qu'il voyait. Il a été saisi par la prière de Jésus, par son attitude. Il a bien vu qu'il se passait quelque chose. Que quand Jésus prie, ça se voit. Quand Jésus est un homme de prière, et ça se voit. Et alors il est poussé à lui demander. Il est tellement saisi par la beauté de Jésus en prière qu'il lui demande, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples. Comme Jean l'a appris à ses disciples. Parce que tout maître, tout rabbi, tout maître de la loi, la première chose qu'un maître religieux fait, c'est d'apprendre à prier. C'est pour ça que je me suis dit que c'était bien de commencer par ça quand j'arrive à Saint-Videntin. C'est-à-dire, on va peut-être commencer à apprendre à prier. Quand vous priez, dit Jésus, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes nous remettons à quiconque nous doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. Le Notre Père est beaucoup plus court, il contient quatre demandes. Ton nom, ton règne, notre pain quotidien, remets-nous nos péchés, ne nous soumets pas à la tentation. Cinq. Alors, de fait, ici, je reprends ce que dit Benoît XVI dans la structure de notre Père. Nous avons... c'était un petit excursus par Saint-Luc pour vous montrer que la prière est beaucoup plus ramassée, que nous avons la liturgie à garder, celle de Saint-Matthieu, beaucoup plus complète. Vous avez en Saint-Matthieu les trois demandes. Voilà. Au milieu, le pain quotidien, puis trois autres demandes. Et la tension entre la sanctification du nom et puis délivre-nous du mal. Et voilà ce que dit Benoît XVI. Dans les trois premières demandes, il s'agit de Dieu lui-même dans ce monde. On pourrait dire que ton nom soit sanctifié dans ce monde, que ton règne vienne en ce monde, que ta volonté soit faite sur la terre, en ce monde, comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, finalement, c'est pas simplement sur la volonté, c'est sur les trois choses. Hein. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il s'agit de Dieu lui-même en ce monde. Dans les quatre autres demandes, il s'agit de nos espérances, de nos besoins et de nos difficultés. Notre espérance, le Seigneur nous remettra, nous pardonnera. Nous espérons qu'il ne nous soumette pas à la tentation parce que c'est pour nous une difficulté. Et nos besoins, le pain quotidien, être délivré du mal, etc. Et voilà ce que dit Benoît XVI. On pourrait comparer la relation entre les deux sortes de demandes du Notre Père avec la relation entre les deux tables du Décalogue, qui sont en fait des développements des deux parties du commandement principal, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Autrement dit, par les trois premières demandes, nous allons apprendre à aimer Dieu. Apprendre à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est apprendre à dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est cela qui, finalement, nous conduit à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre Père nous conduit donc à entrer dans le chemin de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ainsi, dans le Notre Père, dit Benoît XVI, est affirmé d'abord le primat de Dieu, dont découle naturellement la question de la juste façon d'être homme. Est-ce que le Notre Père est une simple formule? Là encore, je vais prendre mes propos à Benoît XVI. Si ça n'était qu'une simple formule... Ah mais c'est le micro qui est comme ça, c'est le micro qui est de mauvaise qualité. Pardonnez-moi, faut pas que j'y touche. Alors, si c'était une simple formule... Eh bien, nous serions uniquement dans la récitation du Notre Père. Mais au fond, ce n'est pas simplement une formule. Bien sûr, ce sont des mots que nous disons chaque jour, que nous avons besoin de redécouvrir à chaque fois. Mais nous avons besoin de nous appuyer sur des prières. Voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est avec ces mots que s'est concrétisée la rencontre de l'Église dans sa totalité, de chaque individu particulier avec Dieu. C'est avec ces mots-là que nous rencontrons le Seigneur. Et ces mots-là, ils nous sont donnés par Jésus lui-même. Donc c'est une aide pour prier. Ce n'est pas une formule, c'est une aide. Voyez ? Une aide pour prier. Parce que sinon, notre prière personnelle et notre image de Dieu vont devenir trop subjectives. Un jour, on disait, bon ben voilà, dites chacun votre credo dans une assemblée. J'avais entendu ça, j'étais un jeune séminariste. Dites chacun votre credo. Alors on entendait, ben, je crois en Dieu qui pour moi est un chemin qui passe par le désert, qui passe sous les sapins. Voilà, c'est très très bien, c'est très beau. Mais ça, c'est entièrement subjectif. Alors aller rassembler le peuple de Dieu avec ça. Donc quand le Seigneur nous donne des mots pour prier, il fait une œuvre considérable. Il nous donne les mots avec lesquels lui-même prie, et c'est des mots qui nous apprennent tous à prier le même Dieu. Nous sommes rassemblés dans la même prière qu'est la prière du Christ. Dans les formules de prière qui sont montées d'abord de la foi d'Israël, puis de celle des hommes de prière de l'Église, eh bien nous apprenons à connaître Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Et voilà ce que dit Benoît XVI, je pense que vous le disiez bien, normalement la pensée précède la parole. La cherchant et la formulant, nous cherchons nos mots, comme quand nous avons une pensée que nous ne voulons pas trahir, nous cherchons les mots qu'il faut pour la dire. Mais pour la prière des psaumes, pour la prière liturgique en général, c'est l'inverse. La parole et la voix nous précèdent et notre esprit doit se conformer à cette voix. Notre esprit doit se conformer à cette voix. N'oubliez pas que le décalogue, dans le livre de l'Exode, hein, le premier commandement, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Écoute. » Nous sommes des êtres d'écoute autant que de désir. Nous avons besoin d'écouter, et surtout quand c'est Dieu qui parle, il faut l'écouter. La parole et la voix nous précèdent et notre esprit doit se conformer à cette voix, car par nous-mêmes, nous autres, les hommes, nous ne savons pas prier comme il faut, Romains 8, 26, car nous sommes trop loin de Dieu, et il est trop mystérieux et trop grand pour nous. Aussi, Dieu nous est-il venu en aide ? Il nous donne lui-même les paroles de la prière et il nous apprend à prier. Par les paroles de prière venant de lui, il nous offre le don de nous mettre en chemin vers lui. Et en priant avec les frères et sœurs qu'il nous a donnés, il nous permet de le connaître peu à peu et de nous approcher de lui. La question qu'on avait soulevée tout à l'heure, c'était pourquoi prier si Dieu connaît nos besoins? Pourquoi le Seigneur veut-il qu'on le prie? Alors, plusieurs pères de l'Église, notamment saint Augustin, qui a écrit un très beau commentaire du Notre Père qui s'appelle « La lettre à Proba ». Je la citerai de temps en temps. Saint Augustin, et puis vous avez plus proche de nous le cardinal Journet, dans le petit livre que je vous ai conseillé, qui est en vente à la librairie, qui dit ceci, en fait, le Seigneur veut qu'on le prie pour nous faire obtenir cette vie bienheureuse. C'est pour nous faire obtenir cette vie bienheureuse que celui qui est en personne la vie véritable nous a enseigné à prier. Non pas avec un flot de paroles comme si nous devions être exaucés du fait de notre bavardage. En effet, comme dit le Seigneur, nous prions celui qui sait avant que nous lui demandions ce qui nous est nécessaire. Il sait ce qui nous est nécessaire avant que nous le lui demandions. Alors, pourquoi nous exhorte-t-il à la prière continuelle? Ça pourrait nous étonner. Mais nous devons comprendre, et là le cardinal Journet reprend saint Augustin, nous devons comprendre que Dieu, notre Seigneur, ne veut pas être informé de notre désir, qu'il ne peut pas ignorer d'ailleurs, mais il veut que notre désir s'excite par la prière, afin que nous soyons capables d'accueillir ce que lui s'apprête à nous donner. Autrement dit, quand nous prions, c'est une excellente pédagogie de la part de Dieu. Nous apprenons à exprimer notre désir, à l'exprimer, à le répéter, à le redire, et ensuite à l'ajuster à la volonté de Dieu. Nous avons des tas de demandes, des petites, des grandes. Quelquefois, il faudrait peut-être nous apercevoir aussi que nous pouvons agacer le Seigneur, hein, par nos petites demandes. Voilà. Et le Seigneur, comme un pédagogue, divin pédagogue, me dit, mais quand vous priez, commencez par dire « Notre Père ». Vous vous mettez en présence du Père. Et puis vous allez dire, d'abord, que ton nom soit sanctifié. Vous n'allez pas d'abord réclamer votre place de parking. Vous n'allez pas d'abord réclamer la santé pour tel ou tel, ou telle chose dont vous avez absolument et urgentement besoin. Vous allez d'abord vous mettre en présence du Père, parce que vous ne priez pas quelqu'un qui est le laquais de vos services, de vos caprices. Le Seigneur n'est pas le laquais de nos caprices. Prier, on ne prie pas la bonne, de venir faire le ménage chez nous. On se met en présence de celui qui est notre Créateur. Et qu'à ce moment-là, il faut commencer par... Vous savez, c'est le grand enseignement de Sainte Thérèse d'Avila dans le chemin de la perfection. Absolument remarquable. Mes sœurs, quand vous êtes en prière, eh bien, considérez que vous entrez dans le palais du roi. Et que vous êtes là, chez le roi. Et que vous n'allez pas lui demander n'importe quoi, parce que votre frigidaire est détraqué, ou... voilà. Et vous êtes là, et vous attendez que le bon plaisir du roi vous regarde, baisse son regard sur vous, comme le dit la Vierge Marie, il a jeté son regard sur son humble servante. Voilà. Prier, c'est se mettre d'abord en présence du roi. Donc le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. C'est souvent nous qui ne savons pas ce dont nous avons réellement besoin pour la vie éternelle. Et afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'il s'apprête à nous donner, car cela est très grand, tandis que nous sommes petits et de pauvres capacités. Mais nous adressons aussi nos demandes à Dieu par des paroles. à intervalles déterminés selon les heures, les époques. C'est pour nous avertir nous-mêmes par ces signes concrets, pour nous faire connaître à nous-mêmes combien nous avons progressé dans ce désir, afin de nous stimuler nous-mêmes à l'accroître encore. Lorsque l'apôtre, alors l'apôtre c'est saint Paul, hein, lorsque saint Paul dit « Faites connaître vos demandes auprès de Dieu », faites-les connaître avec confiance, dites-lui tout. Dites-lui tout. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit entendre cette parole, faites connaître vos demandes auprès de Dieu, en ce sens qu'on les fait connaître à Dieu, comme si il les ignorait, car il les connaissait avant même qu'elles existent. Mais ça veut dire qu'elles doivent demeurer connues de nous auprès de Dieu. Elles doivent être connues de nous auprès de Dieu. C'est comme si, peu à peu, on prend conscience de notre demande. Et finalement, qu'est-ce que je suis en train de demander à Dieu ? Et comment est-ce que je dois adapter ma prière ? Elles doivent demeurer connues auprès de nous, de nous auprès de Dieu, par la patience et non pas simplement auprès des hommes par l'indiscrétion. Et en saint Luc, nous avons aussi une explication. Tout de suite après le passage du Notre Père, vous avez une parabole qui est la parabole de l'ami importun. Vous voyez, l'ami importun, c'est en saint Luc, chapitre 11. Je vous le retrouve quand même d'une façon précise. Après le Notre Père, l'ami importun, chapitre 11, versets 5 à 13. C'est tout de suite après le Notre Père. Il leur dit encore, si l'un de vous ayant un ami s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir, et que de l'intérieur l'autre lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est fermée maintenant, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te les donner, je vous le dis. Même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence, de son sans-gêne, et lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve, qui frappe, à qui frappe, on ouvrira. Quel est celui d'entre vous ? Quel est d'entre vous le père auquel son fils demande du pain et qui lui remettra une pierre ? Ou s'il demande un poisson à la place du poison, ou s'il demande un poisson, à la place du poisson, lui remettra-t-il un serpent ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui êtes mauvais, c'est-à-dire qui ne savez pas discerner entre vos désirs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent l'Esprit Saint ? Et il faut considérer que demander l'Esprit Saint, c'est beaucoup plus important que de demander telle ou telle chose avant tout. C'est beaucoup plus important parce que c'est ça qui fait que nous allons vivre les événements dans la grâce de Dieu. C'est ça qui fait que nous allons vivre, que nous allons voir le monde comme Dieu le voit, que nous allons envisager notre vie comme Dieu l'envisage, que nous allons envisager nos problèmes de santé comme Dieu les envisage. C'est de son Esprit Saint que nous avons avant tout besoin. Et c'est la finale du Notre Père. Voyez. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ? C'est ça que le Père veut nous donner. Et pas moins, c'est pas moins que de lui demander une aide matérielle. C'est pas moins. Nous disons, bah oui, mais l'Esprit Saint, je le vois pas. L'Esprit Saint, on n'est pas la manifestation. Peut-être. Mais c'est peu à peu ce qui vous donne du courage en l'épreuve. C'est peu à peu ce qui vous donne la patience dans votre vie quotidienne. C'est peu à peu ce qui vous donne la paix quand vous êtes dans les tourments. Voyez, reprenez l'hymne au Saint-Esprit. Alors bien sûr, vous voyez, et ça veut bien nous dire que Jésus n'agit pas, ou le Père ne veut pas agir avec nous comme un magicien. Vous voyez, notre prière, notre chapelet, c'est pas comme la petite plante d'Aladin, plus on va user les petits grains, et plus le petit génie va sortir, en nous disant, alors maintenant ma petite cocotte, qu'est-ce que tu veux? Pas ça. Mais par contre, si nous sommes fidèles à la prière, si nous entrons peu à peu dans l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit Saint, alors nous allons voir le monde autrement. Nous allons désirer autrement. Nous allons vouloir autrement. Et nous allons aimer autrement, surtout. Pourquoi demander ? Toujours si on demande vraiment, si on cherche vraiment une certaine chose, on l'obtient. Pas n'importe quelle chose. Cette certaine chose, en demandant l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on demande ? On demande le royaume de Dieu. Et c'est la chose essentielle que Jésus veut nous apprendre à demander. La chose essentielle auprès de laquelle les autres ne peuvent être que des moyens très pâles. Il sera permis de demander les autres choses. On demande une réconciliation en famille. On demande une santé pour quelqu'un qui vit une épreuve. Bon, on peut les demander, mais on la demande dans une lumière beaucoup plus haute qui est celle du royaume de Dieu. Alors, une fois, ça c'était mon introduction. En quel sens Dieu est-il Père ? On commence par dire « Notre Père qui es aux cieux ». Alors, notre Père des cieux. Trois choses. En quel sens Dieu est-il Père ? Il faut passer de la paternité humaine, l'expérience que nous avons de la paternité humaine, et ne vous inquiétez pas, chez vous comme chez votre voisin ou votre voisine, de rang. La paternité, l'expérience de la paternité humaine est toujours blessée, quelque part. Elle n'est pas parfaite. Ce mot de père, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie à la fois l'auteur, celui qui est auteur et conservateur de la vie. La paternité, j'entendais un jour le père d'un foyer de charité dire, mais voilà, le mystère de la paternité, c'est pas d'abord le mystère d'un pouvoir, c'est un mystère de vie, de donner la vie, d'être auteur de la vie. Ce mot de père qui signifie à la fois auteur et conservateur de la vie, si beau qu'il puisse être ici-bas, une fois transporté en Dieu, il a un sens absolument inouï. Notre père, le mot père, il est pris bien sûr d'une manière analogique, parce que le père des cieux est infiniment plus père que n'importe quel père. Ici-bas. C'est ce qu'on appelle l'analogie, vous voyez. C'est par analogie que l'on emploie le mot de père pour l'attribuer à Dieu, mais on s'aperçoit qu'en fait, Dieu est beaucoup plus père, et il est père en vérité. La paternité humaine ici, elle est faible, elle est pâle. Il faut complètement transposer. La paternité en Dieu, voyez, veut toujours dire auteur, conservateur de la vie, fusion de la douceur et de la force. Mais de quelle manière Dieu est-il auteur et conservateur ? De quelle manière est-il auteur de la vie ? Voyez. Eh bien, il faut entrer dans le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, ce n'est pas le mystère d'un Dieu en trois personnes, vous voyez, comme on l'apprend dans un cours de théologie ou au séminaire, d'une façon un peu froide. Et c'est le mystère de la Trinité, c'est le mystère de la paternité en Dieu. C'est-à-dire une extraordinaire source d'amour qui se répand. Et cette paternité, à la différence des divinités du paganisme, elle n'est ni masculine ni féminine, elle transcende la différence des sexes. Parce que lorsque nous l'évoquons, la paternité en Dieu. Nous n'imaginons pas un Dieu masculin ou un Dieu féminin, patriarche, potentat. Le cardinal Barbarin dit j'aimais bien entendre cet enfant expliquer, Dieu c'est un papa qui aime comme une maman. Donc il y a bien les deux qui sont assumés en Dieu. Dieu c'est un papa qui aime comme une maman. Il y a tous les attributs de la paternité et de la maternité. On l'a dans le livre d'Isaïe au chapitre 66, le dernier chapitre d'Isaïe 66, verset 13. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Comme un fils que sa mère console. Et c'est Dieu qui parle. Le psaume 131. Mon âme est comme un petit enfant contre sa mère. Ainsi mon âme t'espère, toi mon Dieu. Mais pourquoi nous disons Père quand même? Donc Dieu, on continue dans cette recherche, Dieu est la source de toute paternité. Alors quand il dit de ne donner à personne sur la terre le nom de Père, il faut faire attention à cela, hein, parce qu'il faut prendre toute l'écriture en même temps. Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul dit bien une chose, Éphésiens 3, 14, c'est le nombre pi. Éphésiens 3, 14. Attendez, là je suis dans la lettre de l'acte. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Alors Jésus dit de donner à personne le nom de Père, et Saint Paul dit, oui mais attention, je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité tire son nom. Je dis, notre Père, celui qui est l'auteur, le conservateur de la vie. Cela veut dire que le nom de Père a une signification qui est réservée à Dieu, que je ne peux donner qu'à Dieu. Ça veut dire que si jamais mon père m'abandonne, me trahit, je ne suis pas orphelin. J'ai un père, véritablement père, cette paternité auprès de laquelle la paternité humaine est absolument incomparable. Dieu est la source de toute paternité, c'est cela ce que ça veut dire. Et il nous faut nous rappeler que Dieu seul est l'auteur de toute vie. Alors, en quoi cette paternité s'exerce-t-elle? D'abord, Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. D'une certaine manière, le philosophe peut dire, parce que ça s'est dit hein, chez Épictète, chez les stoïciens, ils parlent d'un Dieu Père. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ben, tout ce qui est vient de celui qui est. Tout ce qui est a pour auteur l'être premier qu'est Dieu. Donc on peut parler d'une certaine paternité. Mais les chrétiens disent beaucoup plus que ça. Nous ne sommes pas simplement il n'y a pas simplement en nous une ressemblance. Il y a en nous une image. Nous sommes à l'image de Dieu. Il y a comme une empreinte en nous. L'homme est esprit, et Dieu est esprit, vérité, lumière, amour. Et quand Dieu nous crée, il nous crée pour nous-mêmes. C'est la dignité de la personne humaine. Toute personne est créée et voulue pour elle-même, et pas pour autre chose. Elle est voulue gratuitement, aimée gratuitement par Dieu. Donc, le Père est notre Père parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il est aussi notre Père parce qu'il a de la sollicitude envers les hommes, envers nous. Ça s'appelle la providence. Ce sera un autre cours. Je vous cite simplement le livre de la sagesse, verset... Chapitre 14, verset 3. Ô Père, votre providence régit et conduit toutes choses. Alors ça pose bien sûr le problème de la providence, le problème du mal, de la providence, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais acceptons déjà cela. Le Père, c'est celui qui a de la sollicitude envers les hommes. Et il faut peut-être le redécouvrir, d'ailleurs, dans notre prière, au plus profond de notre cœur. Troisième chose, la paternité de Dieu s'exerce envers nous parce qu'il nous a adoptés comme fils dans le Christ. Romains 8. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Une petite image. Vous prenez un cristal. Vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire que vous avez reçu par votre baptême la grâce d'être enfant de Dieu. Vous êtes habité par la grâce. Bon, vous n'y réfléchissez pas à chaque minute de votre existence. Mais prenez le temps. Voyez. Cette semaine, puisqu'on va faire chaque demande du Notre Père, cette semaine, vous allez prier simplement avec ces premiers mots, Notre Père qui est aux cieux. Puis vous allez redécouvrir ce que c'est que cette paternité. Vous allez demander à l'Esprit Saint de vous faire découvrir cette paternité. Combien il vous a créé à votre image et à sa ressemblance. Combien il a de la sollicitude envers vous. Et combien vous êtes, par sa grâce, par la grâce du baptême, vous êtes adoptés comme des fils. Et du point de vue du théologien, je prends un exemple que prend le cardinal Journet. Si Dieu fait un cristal en lui-même, il est déjà très beau. Vous voyez, ce cristal, c'est l'homme, c'est la femme, voilà. L'homme comme image, ressemblance de Dieu. Mais si il sort de l'ombre, ce cristal, pour le mettre dans la lumière, c'est tout à fait autre chose. Alors, quand il y a cette lumière, vous voyez, le cristal resplendit de tous ses feux. Et bien, quand il y a cette lumière de Dieu dans l'âme, c'est ça la sénilitude de la grâce. On ne se rend pas compte, frères et sœurs, ça c'est le prédicateur qui reprend le dessus, on ne se rend pas compte à quel point pour le Seigneur il y a une beauté en nous que nous-mêmes nous ignorons. Cette beauté, il l'admire. Vous avez été baptisés dans le Christ. Comment le Seigneur de toute éternité ne peut-il pas voir votre beauté ? Et je vous assure qu'il a beaucoup plus d'espérance que nous, nous en avons sur nous-mêmes. Il voit notre beauté. Voyez. Quand l'âme s'ouvre à la grâce, voyez, c'est comme si le cristal vient, se laisse inonder de lumière. Voilà. Petite image, mais très simple. Voyez. Et bien, quand l'âme s'ouvre à la grâce, elle renaît à une vie nouvelle, une vie de filiation avec Dieu. Parce que vous êtes fils, dit saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. « Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. » Dieu envoie un esprit d'adoption en nous par lequel nous crions « Père, Abba, Père !» Et nous ne disons pas « Père » comme les païens peuvent dire « Père ». Ce n'est pas vrai. Nous le disons dans un esprit de filiation, d'enfant. Pourquoi l'appelle-t-il un cri ? Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Pourquoi un cri ? Parce qu'un grand besoin fait crier. Un enfant ne crie que lorsqu'il souffre ou qu'il a besoin. Mais à qui est-ce qu'il crie dans son besoin? Sinon à son père, à sa mère, à sa nourrice, à tous ceux en qui la nature lui fait sentir quelque chose de paternel. Crions donc, car nos besoins sont extrêmes. Ça c'est Bossuet, et nos raisons de Bossuet. Crions donc, frères et sœurs, car nos besoins sont extrêmes. Nous défaillons, le péché nous gagne, mais crions à notre Père. Qu'est-ce qui nous porte à crier? Le Saint-Esprit, le Dieu d'amour, l'amour du Père et du Fils. Celui qui répand l'amour dans nos cœurs. Crions, crions donc avec ardeur, et que tous nos cris, tous nos os, crient « Ô Dieu, vous êtes notre Père ». Voilà. Voyez cette première phrase. Notre Père qui es aux cieux, Père, redécouvrez ce don de Père. Ça engendre une dette, une triple dette, dit saint Thomas d'Aquin. D'abord, l'honneur, par le don de la louange. Le sacrifice de louange m'honorera, dit le Seigneur, psaume 49. Et à l'inverse, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et ce que nous devons à ce Dieu qui est notre Père, c'est de lui rendre l'honneur de notre louange, par le cœur, par la pureté du corps. Glorifiez Dieu dans votre corps, parce que vous êtes, votre corps est le tabernacle de l'Esprit Saint. Et par la justice, l'honneur du roi aime la justice. Deuxième chose, ce Père, nous entrons dans son imitation. Vous m'appellerez Père, vous ne cesserez de marcher derrière moi. Jérémie 3, 9. L'imitation parfaite, qu'est-ce qu'elle requiert, l'imitation parfaite? L'amour. Éphésiens 5, soyez des imitateurs de Dieu, tels des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. C'est beau cette phrase. Éphésiens 5, 1, 2, soyez des imitateurs de Dieu, tels des enfants bien-aimés, des enfants du Père, et marchez dans l'amour. L'imitation, elle requiert aussi la miséricorde. Luc 6, 36. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il veut vous donner cette puissance de la miséricorde. Et l'imitation, elle suppose aussi la perfection. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Et enfin, troisième chose, voyez, l'obéissance. L'obéissance comme Jésus l'a vécu, l'obéissance. C'est par Jésus que nous connaissons vraiment le Père. Voyez, nous avons entendu Jésus s'adresser à Dieu par ce mot-là, Abba, Père. Et vous savez quand est-ce qu'il dit Abba, Père? Dans l'évangile de saint Matthieu, c'est au moment de Gethsémani. C'est au moment où il entre dans sa passion que là il a besoin de se réfugier dans les bras du Père. Abba, Père, que ce calice s'éloigne de moi. Ne veux pas la souffrance, et nous-mêmes c'est pareil. Et pourtant que ta volonté soit faite. La demande la plus difficile. Difficile de dire ça. Qui me voit, voit le Père, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Et Philippe, tu n'as pas compris encore. Qui me voit, voit le Père. C'est beau ça. La grande affaire de Jésus, c'est vraiment ça, la grande affaire de Jésus. C'est de nous manifester le Père. Et vous voyez, Jésus n'a jamais dit à ses apôtres, quand vous priez, dites « Bon Jésus ». Jésus ne dit pas quand vous priez « Bon, alors vous allez me dire ». Non. La grande affaire, la grande mission de Jésus, la mission du Rédempteur de l'homme, c'est de faire de nous des enfants de Dieu qui sont capables à nouveau de dire Père. C'est pour ça que nous commençons la prière par cela. C'est énorme de dire ça, notre Père. Alors, Dieu n'est-il pas... Tiens, il manque quelque chose là. Il manque une chose. Dieu n'est-il pas tout aussi mère que père? Il y a une très belle réflexion de Benoît XVI qui dit ceci, je vais la lire, je vais avoir un petit peu 5 minutes de retard, je vous prends encore 5 minutes. Reste pour finir une question, dit Benoît XVI. Dieu n'est-il pas aussi mère? Si, dans le langage formé, à partir de la corporéité de l'homme, l'amour de la mère semble inscrit dans l'image de Dieu, il n'en reste pas moins, vous voyez, c'est Isaïe, c'est le psaume 130, voilà, je ne t'abandonnerai pas, l'amour de la mère semble inscrit dans l'image de Dieu, il n'en reste pas moins que Dieu n'est jamais qualifié de mère ni invoqué comme mère, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Dans la Bible, le mot mère n'est pas un titre de Dieu. Pourquoi ? Nous ne pouvons que tâtonner, dit Benoît XVI, très prudemment. Nous ne pouvons que tâtonner dans notre tentative de compréhension. Bien sûr, Dieu n'est ni homme ni femme, étant précisément le créateur de l'homme et de la femme. Les divinités mères, dont le peuple d'Israël, tout comme l'Église du Nouveau Testament, était entourée, montrent une image de la relation entre Dieu et le monde, contraire à l'image de Dieu contenue dans la Bible. Pourquoi ? Parce qu'elles englobent toujours et sans doute nécessairement des conceptions panthéistes qui font disparaître la différence entre le Créateur et la créature. À l'inverse, l'image du Père était et reste toujours en mesure d'exprimer l'altérité du Créateur et de la créature, la souveraineté de son acte créateur. C'est seulement en excluant les divinités mères que l'Ancien Testament a pu mûrir son image de Dieu, qui est pure transcendance. Même si nous ne pouvons pas fournir de justification absolument convaincante, dit Benoît XVI, la norme doit rester pour nous le langage de la prière de toute la Bible, et nous l'avons constaté malgré les grandes images de l'amour maternel. Le mot « mère » ne figure pas parmi les titres de Dieu. Ce n'est pas un nom avec lequel nous pouvons nous adresser à Dieu. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez quelque chose qui est intéressant. En désignant Dieu du nom de Père, c'est le numéro 239 du catéchisme de l'Église catholique, le langage de la foi indique principalement deux aspects. Que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté, sollicitude aimante, ça nous l'avons vu, pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité, qui indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature. Et voilà la chose. Le mot de mère, la réalité de la maternité, signifie l'intimité. Et c'est vrai que, vous voyez, dans la spiritualité carmélitaine, par exemple, c'est très développé, ça. On parle de l'intimité de l'âme avec Dieu, des noces de l'âme avec Dieu. La notion de maternité désigne cette proximité, cette intimité. Mais le risque, c'est de faire de Dieu, d'entrer dans une confusion entre Dieu et sa création. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu est tout, il est partout, il est en tout, il est tout. Dieu, c'est la nature, c'est Dieu. Ça, c'est dans les dérives New Age d'un certain écologisme. Non. Nous avons besoin d'une altérité. Dieu n'est pas le créé. Dieu n'est pas sa création. Dieu est celui qui souverainement crée. Et c'est pour ça que le titre de Père lui convient. Parce que si vous y réfléchissez bien, le Père, même dans la Bible, c'est celui qui donne le nom à l'enfant. Joseph, tu lui donneras le nom. C'est toi, c'est ton rôle. Et en donnant le nom, il commence à distinguer l'enfant de sa mère. Il y a besoin de cette éducation dans l'altérité. Ça, c'est très important. Vous relirez ce 239 du catéchisme. Le langage de la foi puise ainsi dans l'expérience humaine des parents, qui sont d'une certaine façon les premiers représentants de Dieu pour l'homme. Mais cette expérience dit aussi que les parents humains sont faillibles et qu'ils peuvent défigurer le visage de la paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il n'est ni homme ni femme, il est Dieu. Mais en même temps, parce qu'il est l'origine, la mesure de toute chose, et qu'il est tellement autre de sa création, personne n'est père comme Dieu est père. Voilà. Alors, j'ai un petit peu dérapé sur mon heure, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je n'ai pas abordé le fait de dire « notre Père » et de parler des cieux. Alors, j'en parlerai dans les prochaines minutes du prochain cours, donc la semaine prochaine, en espérant que vous soyez fidèles à ce cours. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.